RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la roue tourne va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Jérôme Rotten, avec Damien Périnel. Alors, avant de recevoir notre invité, oui, je vous le disais, allez sur rmcsport.fr. On a un module qui s'appelle Predictor et vous pouvez rentrer tous vos résultats et ça vous donne votre tableau final de la Coupe du Monde.
Magnifique.
Donc, vous pouvez vous faire vos petits délires et arriver à votre finale. Donc, moi, j'ai trouvé Brésil-Espagne.
Voilà. Pas mal.
À voir. Ouais. Messieurs, Robert Redeker est avec nous. Pour ce bouquin, peut-on encore aimer le football? Je le montre aux éditions du Rocher. Robert, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir Robert.
Alors vous êtes philosophe, un vrai.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Parce que nous, on est censés être les philosophes.
C'est moi qui vous appelle. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes philosophe.
Oui, bien sûr.
Ouais, les philosophes que je connais, c'est BHL et Finkielkraut. Donc c'est pas...
J'étais avec Finkielkraut tout à l'heure pour son émission en réplique. Il aime le football beaucoup.
Oui. D'accord.
Et puis... Xavier Duluc, voilà, nous avons fait le débat à trois.
D'accord.
Vincent Duluc.
Vincent Duluc.
Un collègue de l'équipe.
Mmh. Alors, Xavier, c'est pareil.
Peut-on encore aimer le football? Quand on lit votre bouquin, on a l'impression que votre réponse est globalement non.
Ah, pas sûr du tout. Bon. Ce qui est critiqué dans le bouquin, c'est ce que le football est devenu. C'est-à-dire toute la mercantilisation qu'il y a autour du football, c'est-à-dire une industrie également, hein, c'est cela qu'il est devenu, et qu'il a sans doute un peu dénaturé, ou du moins qui a recouvert et fait oublier ce qui est son essence, un jeu un peu pur, donc d'une part. D'autre part, il y a tout un chapitre où je dis pourquoi j'ai aimé jouer au football. C'est le
chapitre. Vous êtes un footballeur désenchanté, un peu, en quelque sorte.
Plus qu'un footballeur désenchanté, un être humain désenchanté par son époque et un citoyen désenchanté par, mettons, ce qu'est devenu la société et la politique. Alors pourquoi peut-on aimer le football? Pas seulement parce qu'on a aimé y jouer dans son jeune temps, mais aussi parce que, à mes yeux, le football, c'est un peu comme une fable de La Fontaine. C'est-à-dire qu'un match ou l'univers du football reflète le monde et l'homme tels qu'ils sont, pour le meilleur et souvent pour le pire. Autrement dit, le football, c'est un moyen de connaissance. Voilà. À travers le football, on peut connaître l'homme, le monde,
Ça peut être la société. Regardez Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions, par exemple, ça correspond à ce que vous décrivez. Et pourtant, le foot business est là.
Oui. Là, Sergio Ramos, c'est l'homme, finalement. Mais dans d'autres matchs, vous allez voir l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Lorsque, par exemple...
Mais certains vous disent que Sergio Ramos, c'est ce qu'il avait de meilleur, justement.
Oui, si on veut. Mais moi, je ne le dirai pas. Mais, par exemple, dans certains matchs, vous allez voir quelqu'un rater exprès. Et ce sont des cas avérés. Un pénalty parce qu'il estime qu'il a été sifflé injustement. C'est très rare, mais là, c'est si ça existe.
Oui, mais bien sûr, je ne contredis pas là-dessus.
C'est listé. Donc là, c'est l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Donc voilà, le football, c'est une fable où l'on peut lire l'humanité et la société dans le pire. Et le pire, je critique beaucoup l'idée de mercato.
Alors, on va y revenir. Alors là, Robert Redeker, vous êtes dans une émission, il n'y a pas de philosophe ici. Vous avez en face de vous deux actuels footballeurs professionnels qui sont là. Je lis quelques extraits du bouquin, messieurs Périnel et Rotten. Le footballeur est l'homme marchandise par excellence. Il appartient à ses sponsors, aux médias qui vivent de sa sueur. Il appartient à son club, souvent une tentaculaire entreprise transnationale. Il appartient à ses supporters. Il appartient à la grande masse des consommateurs d'événements sportifs, vous n'êtes plus rien, messieurs.
Ouais.
Tu peux me traduire en footeuse ce que c'est.
j'ai une question.
En footeuse, il manque de liberté.
Mais
vous vous sentez pas en liberté?
Non, mais c'est pas ça. En gros, vous nous comparez à des esclaves des temps modernes.
Pas vous.
Non, mais les joueurs, vous dites qu'on n'a pas de liberté, on n'a pas de...
Le système fait des joueurs.
Oui, mais
L'idée de mercato, c'est quelque chose de très troublant, dans la mesure où on a supprimer l'achat et la vente d'êtres humains à une certaine époque, il n'y a pas très longtemps. Et là, on le voit revenir.
Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Vous méprenez beaucoup parce que quand vous parlez de mercato, on ne vend pas l'être humain, on vend le droit d'acheter le contrat. Le footballeur après est ainsi, dispose de son libre arbitre pour signer ou pas le contrat dans, vers le club vers lequel il a été vendu. Donc c'est, on est loin d'être de pouvoir comparer les deux cas. Il y a une nuance importante, c'est que le footballeur dispose toujours de son libre arbitre et s'il est son club veut le vendre à un autre club mais qu'il ne souhaite pas signer dans ce club-là, eh ben vous ferez pas affaire.
Oui, mais est-ce qu'à la fin ça ne revient pas au même? Est-ce que dans les
L'esclave n'avait pas le choix. Voilà, donc c'est très différent.
Surtout,
c'est ça qui différencie l'esclave de l'homme libre, c'est le fait de pouvoir disposer de sa liberté de décider de ce qu'il fait.
Oui, mais il y a quand même l'idée, lorsque vous allez regarder beaucoup d'émissions de la Coupe du Monde, où en ce moment on parle du mercato, on parle de vente et d'achat de joueurs. Ouais. Certes.
Et on parle de leur personnalité, de l'impact qu'ils vont avoir.
C'est pas rien de vente et achat d'êtres humains. Je crois qu'il faudrait trouver autre chose.
Vous avez raison, c'est vrai. Après tout, c'est de la vente et de l'achat d'êtres humains, mais avec leur consentement.
Non, c'est pas de la vente et de l'achat d'êtres humains, c'est la vente et l'achat de contrats. Ça n'a rien à voir.
Non,
et
puis surtout avec le consentement du joueur.
Et avec le libre arbitre. Voilà.
Alors, il y a quand même, dans un sens, vous les brossez dans le sens du poil, quand même, nos amis Rotel et Périnel, en disant que finalement, le foot réinvente une sorte de culte de la personnalité, comme s'ils étaient un peu des humains ultimes, quoi. C'est-à-dire redevenus des modèles ultimes de la société d'aujourd'hui.
Ça arrive souvent. Bon.
Regarde-le, le sourire, il sent plus.
C'est exactement ça. Le
culte de la personnalité.
Vas-y, Robert.
Il y a deux aspects. Alors, il y a un aspect tout à fait positif. L'être humain, à la base, pour se développer, a besoin d'admirer. Voilà. Et si on n'admire pas, on ne se développe pas. Et il faut avoir des modèles, etc. Mais l'autre côté, le culte de la personnalité, il peut être aussi dangereux dans la mesure où il peut amener à détruire la liberté et à se transformer. En politique, c'est arrivé très souvent. Heureusement, le foot n'en est pas là. Ouais. Mais quand on fait le culte de la personnalité, alors il y a eu Fidel Castro, il y a eu Mao, il y a eu Hitler, il y a eu Staline, etc. Donc, là je veux dire qu'il faut se méfier.
Bon, Vahid Halilhodžić,
il y a la limite. Vraiment, je pense qu'il a passé le cap.
Mais par rapport à ce que vous dites sur l'humain, moi, il y a un passage du livre qui m'a un peu chagriné, c'est quand vous parlez, vous reprenez le concept de Michel Foucault, la mort de l'homme. Vous dites que le footballeur, c'est la mort de l'homme.
Oui.
C'est la mort de l'homme, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la race humaine meurt, mais que l'homme, c'est l'humanité, en fait, qui se transforme en quelque chose. Et donc, que, en fait, ce footballeur qui est parfait, qui est une sorte de robot, d'humain robotisé, qu'on paye pour accomplir une performance, c'est la mort de l'homme. Mais à mon sens, d'une part, bon, citer Michel Foucault, ça, je vous laisse mettre de vos choix, hein, chacun a ses références. Mais moi, ce qui me choque un peu, dans cette analyse-là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous regardez pas le foot, vous intéressez pas au foot, parce que sur le terrain, ce qu'on voit, ce qu'on raconte nous dans l'émission dans l'after, par exemple, c'est pas juste des performances sportives, c'est tous les à côté, c'est ça qui nous intéresse. En Argentine, on dit que le football est un sentiment, et le football, même si c'est vrai que il évolue au rythme de la société, je suis d'accord, j'ai toujours dit que j'étais d'accord avec cette thèse situationniste, même si j'aime pas trop non plus, qui dit que la société se spectacle, le football est à l'image de la société, il se spectacle aussi, mais il y a toujours ces histoires, ce sentiment, le fait que il y a des histoires comme Gilbert parlait de Sergio Ramos, par exemple, qui fait son petit coup de garce. Mais ça, c'est magnifique. Et comment vous pouvez dire, quand vous voyez ce genre de choses, dans le match le plus important de l'année, c'est-à-dire quand un joueur va faire ça, comment vous pouvez dire que le footballeur est déshumanisé?
Il a trouvé, je ne suis pas en désaccord avec vous, il a trouvé la réponse dans le livre, peut-être. Bon, si vous dites, vous ne regardez pas le football, c'est faux. Vous regardez même à vous.
D'accord.
J'ai regardé France-Italie. J'ai regardé Marseille-Atlético.
C'est pas du football. Hein,
ouais.
Lui, il fut dans l'extra-football.
Voilà. Et si vous regardez le livre, il y a un très grand nombre d'exemples de matchs. Voilà. Bon. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie d'une critique du spectacle et d'une critique de la société du spectacle.
Mais ça, il n'y a aucun problème.
Ah oui, on l'entend.
des transformations profonde que ce, le spectacle induit.
Oui, mais le football n'en est pas le responsable. Il le subit, cette
spectaculation. J'ai lu un extrait parce que c'est assez intéressant. Le joueur de foot, dites-vous Robert, campe l'au-delà du prêtre et du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la magistrature du prêtre, succéda ensuite l'instituteur, le professeur, et finalement ça laisse la place au joueur de foot. C'est-à-dire que alors même peut-être que vous des fois ça peut vous paraître gênant, c'est-à-dire que je sais pas les modèles qu'on érige aujourd'hui dans la société, ça va être peut-être un sportif de haut niveau, je sais pas, un chanteur peut-être aussi, bon là on est dans le foot, voilà, plutôt qu'un homme de lettres ou d'esprit quoi. Enfin,
je sais pas, c'est une évolution qui est certaine, en particulier quand on regarde la jeunesse, mais qui a été reprise par l'ensemble de la société. En effet, aujourd'hui, le modèle, celui que l'on place comme ça au sommet, c'est souvent le joueur de foot.
Mais alors, ne vous payez pas de ça, parce que moi, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, où déjà, on admire beaucoup plus les sportifs qu'en France et qu'en Europe. Ouais. Mais c'est surtout que maintenant, le problème, c'est que les modèles actuels chez les jeunes, ce ne sont même plus des footballeurs, j'ai envie de vous dire, ce sont des gens qui font de la télé-réalité. C'est des Kim Kardashian, ce sont des gens comme ça.
Et ça, c'est le stade d'après, alors que les Américains ont déjà atteint.
Oui, voilà. Chez nous, ça n'a pas marché. On a essayé de mettre en avant Loana, etc.
Mais pour vous dire que le footballeur, finalement, c'est pas si mauvais.
On n'a pas tombé sur la même personne. En fait, le passage que Gilbert vient de nous lire, on en est au point, si la société en est au point de dire que c'est aux joueurs de foot de montrer l'exemple, c'est pas la faute du football, c'est juste que la société va mal.
Oui.
C'est un symptôme sociétal.
Tout
à fait. Le football n'en est pas responsable.
Tout à fait d'accord. Hein. Je le disais tout à l'heure dans l'autre émission du Luc. Je crois qu'on en demande trop au foot.
Ça, alors, on est d'accord.
On est en train de demander au foot de réaliser l'unité nationale. L'on n'est plus capable de réaliser nulle part.
Macron a fait ce matin.
Voilà, réaliser l'intégration républicaine. C'est-à-dire de faire en sorte que les jeunes des banlieues qui vivent dans
une vie de la réparer.
Donc on demande au foot, et les médias présentent le foot comme une sorte de médecin universel, et là on lui demande beaucoup trop, et l'on va vers des déceptions évidentes. Bon, lorsqu'on a fait l'éloge de la France black, blanc, beurre en 98, on a dit, ben voilà, c'est la République, les problèmes des banlieues sont finis. Arrêtons, c'est fini. Mais on voit qu'au contraire, le foot n'a pas sauvé la société.
On demande trop au foot, Jérôme?
Oui, je crois qu'on demande trop.
Oui, ça s'entend. Ce que je veux dire, c'est que on a toujours c'est vrai que quand t'es footballeur, on a toujours l'impression d'être exemple. Il faut qu'on soit exemplaire, en fait. Donc souvent les critiques,
dès qu'il y a un pas de côté, on
exactement, alors que dans d'autres milieux qui sont bien plus importants que le football,
dans d'autres sports,
il y a pas de ça. Même dans ton sport, le footeux est toujours là. Tu dois pas déraper, quoi.
Il doit être un saint.
Exactement.
Mais là, c'est trop.
Ouais, même contrairement à d'autres sports, t'as raison. On parlait de l'attitude. Regarde, c'est Roland Garros en ce moment. L'attitude des Français, par exemple. Les tennismen français qui arrivent pas à passer la première semaine de Roland-Garros depuis des années, parce que l'attitude elle est pas bonne. Si c'est on doit être jugé pareil les footeux, mais ça serait dramatique, une catastrophe tant d'années. Voilà. Alors que nous, ça se passe assez bien depuis quelques années quand même, et on arrive quand même à trouver des petits grains de sable dans la machine,
des choses comme ça.
Et ouais,
alors autre sujet intéressant, vous parlez de Neymar, et là il y a tout un chapitre sur Neymar à Paris, et vous dites Neymar vient à Paris pour banaliser cette ville, la rapatrier dans la liste vulgaire des villes dont l'ambition sportive est la plus haute des ambitions, autrement dit des villes qui n'ont plus d'ambition.
Voilà, parce que
vous dénigrez le sport là,
le PSG peut-être.
Robert
non, je crois que Paris, c'est quelque chose depuis un millénaire, bon, et que Paris n'a pas besoin de Neymar pour être au sommet des villes et au sommet de la civilisation.
Il n'y a pas besoin de briller.
C'est la ville lumière.
Ils sont les gens en Bretagne.
Depuis longtemps.
Bon. Je brillais avec Paris en 2004.
Oui, c'est vrai. Ouais, et par ailleurs, Neymar est quand même assez ambigu, pour le moins, par rapport à Paris. Paris a fêté sa venue, et puis tout le temps, Neymar dit, oui, je sais pas, peut-être, j'irai au Real, on verra. Oh là là, je suis blessé, je pars au Brésil. Bon, je crois qu'il n'est pas très reconnaissant par rapport à la demande qui a été... finalement, c'était une sorte de millénarisme. C'est ça, la venue de Neymar. Bon, enfin Paris, aller avoir la coupe aux grandes oreilles, comme ça le Graal. Et puis Neymar en face, voilà. Ça me rappelle tout je parle beaucoup de l'amour du maillot. Voilà. Mm-hmm. Et de ce que c'est qu'un maillot pour les supporters et les joueurs de foot. C'est une seconde peau. C'est pour ça que les supporters critiquent les joueurs qui ne mouillent pas le maillot, parce que c'est la même peau. C'est la peau qui lie, qui les attache ensemble et qui les attache à l'histoire du club. Bien, il semble que Neymar n'ait pas eu très envie de partager cette peau avec les supporters parisiens. Voilà, la critique qu'on peut lui faire. C'est un grand joueur. On verra la Coupe du Monde. On verra.
On va accueillir Hervé dans quelques instants, et puis il y a également un petit passage sur football et religion, et vous dites le football est le pouvoir spirituel de notre époque.
Oui. Le pouvoir spirituel, c'est-à-dire pour les gens, le football, ça compte beaucoup, 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 et l'inspiration dans leur existence vient du football. Ce qui d'ailleurs est critiquable, dans la mesure où j'aime le football quand c'est comme ça sur un rectangle vert, mais si on commence à dire dans les entreprises un peu partout, il faut être compétitif comme les joueurs de football. Si on met la compétition comme l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, je crois que l'on dérape. Si vous
voulez. Mais c'est pas propre au football. Les valeurs du sport en général qui sont appliquées aux règles de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est depuis. Enfin, on va pas remonter ce côté l'horisme, mais voilà. C'est pas propre au football.
Non.
Damien.
Non, donc en fait votre livre, je pense déjà, est centré sur une catégorie de footballeurs. Enfin, ça représente 10% certainement des footballeurs au monde, parce que moi, c'est-à-dire que la carrière que j'ai eue est vas-y, enflamme-toi, est forcément différente de celle de Jérôme.
C'est toi qui le dis.
Donc, si vous voulez, c'est vrai que moi, je me reconnais pas vraiment dans les supposées dérives que vous décrivez dans votre livre. Donc, quand on parle du football. Je trouve que c'est trop c'est général quand même le football. Il n'y a pas que le star system, pas que les multimillionnaires.
Tu as gardé par ailleurs ton truc de gamin, d'amour du jeu, quoi.
Non mais attends, je suis désolé, j'ai dit, non mais ça n'empêche que même Neymar, le côté
tout le monde,
star sinon, ou ce que tu veux, bien sûr que Neymar ou les autres, bien sûr que c'est des amoureux, des passionnés.
Bah,
du
moi
football.
Des fois je me pose la question quand j'en vois certains.
Mais franchement,
est-ce qu'ils aiment leur sport au final, tu vois?
Mais attends, non, est-ce que c'est pas devenu juste on parlait de Neymar il y a 2 minutes.
Juste un boulot.
On parlait de Neymar il y a 2 minutes.
Un boulot contraint même parfois.
Il y a des choses.
C'est aussi ça, mais on ne peut pas le faire si à la base il n'y a pas ce que l'on a connu dans l'enfance qui persiste. Ouais. Sinon, c'est trop dur.
Il y a des choses sur Neymar où je rejoins Robert sur le fait d'avoir cet amour du maillot. Après, il n'y a pas que Neymar. Là, c'est Neymar parce que c'est la tête d'affiche du PSG. Au PSG, il y en a d'autres aujourd'hui qui viennent pas forcément par l'amour de ce club, l'amour du maillot. Voilà, c'est mis de côté. Mais il n'y a pas que au PSG. De toute façon, aujourd'hui, ça se perd de plus en plus et ça se perd depuis bon nombre d'années déjà. Mais après, il y a ce côté-là, mais il y a le côté passionné, prendre du plaisir. Aimer rendre heureux les supporters, les gens, tout le monde. Et Neymar est là, comme d'autres. Ces grands joueurs-là, c'est un régal quand tu les vois sur le terrain. Et forcément, c'est des passionnés quand tu les vois faire ce qu'ils font sur un terrain de foot. Encore là, dernièrement, Neymar qui rentre une mi-temps et qui en une mi-temps arrive à éclairer le jeu. C'est un passionné, c'est un amoureux du football qui rentre comme ça.
Hervé est là, messieurs. Hervé, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir.
Salut Hervé.
Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde.
Supporter acharné des Verts.
Ouais. Et oui.
Bon, est-ce que tu te reconnais dans les extraits de l'essai de Robert Redeker là?
Ben je me reconnais pas vraiment, mais ce que vient de dire Damien à l'instant sur le fait que ça représente 10% des joueurs qui sont dépeints dans le livre. Moi, je vais prendre la même proportionnelle vis-à-vis des supporters. Il n'y a pas que des supporters qui consomment à fond le foot, qui sont abonnés à toutes les chaînes, qui achètent tous les produits, qui participent quelque part au côté un petit peu marketing et foot business à tous les étages que ça peut comprendre. Moi, je suis un supporter qui prend mon abonnement à Sainté. Ça fait 16 ans que ça dure. Ça risque de durer encore 16 ans. Je passe pas à la boutique, j'ai pas 18 chaînes pour tout regarder, je vais voir mes matchs, je regarde les matchs de CNT, j'écoute l'after. Voilà comment moi je me positionne en tant que supporter, et j'ai pas l'impression de m'être complètement déshumanisé, parce que je trouve que ça déshumanise quand même beaucoup le football, le footballeur, le supporter. Ça parle, voilà, un petit peu les méandres du football, mais qui existent, comme on vient de le dire aussi, dans n'importe quelle corporation professionnelle, ouais. Puisque le football est une corporation professionnelle. Donc, je me reconnais pas vraiment dans ce qui est dit, dans ce qui est décrit, en fait.
Pour Robert Redeker, oui, si alors, vous avez autre chose à rajouter.
Le mot de la fin, moi j'irais à la chose ceci. Le football est la chose la plus importante du monde contemporain, et en fait, ce que j'aimerais, c'est que ça redevienne le bonheur de quelque chose sans importance.
Mais juste, voilà. Je trouve que vous négligez une chose, c'est la dimension sociétale qu'a le football. C'est ce pouvoir-là, on a eu un supporter qui est, voilà. Donc, qui
dit voyage. Voilà, Robert la déplore.
Mais non, justement, cette dimension sociétale dans la capacité qu'a le football à créer du lien social, à maintenir même du lien social avec certaines zones rurales qui sont peut-être un petit peu abandonnées par la capitale. Mais quand on voit la manière dont ces gens se créent un sentiment d'appartenance à la cité, donc à leur ville, à la cité au sens propre du terme, je trouve que ça c'est magnifique. Et il n'y a que le football qui a ça.
Oui, là je suis.
Et c'est pour ça qu'on aime le football.
Je suis assez d'accord. Malgré toutes les critiques que l'on peut faire au football star system, c'est le temps d'un match, le temps d'une Coupe du Monde, quelque chose qui rassemble quand même beaucoup, alors qu'il n'y a plus grand chose qui rassemble et que nous sommes.
C'est même plus que rassembler, c'est un vecteur identitaire.
Et c'est aussi l'identité et la reconnaissance qui se joue pour les supporters. Mais alors que nous sommes une société assez éclatée, individualiste, et ça rassemble.
Ça crée du lien social.
C'est déjà pas mal. Mais, ça relève également de critiques fortes et virulentes, me semble-t-il.
Robert Redeker, peut-on encore aimer le football, aux éditions du Rocher, si vous voulez lire en entier. Hop, je le montre à l'écran sur BFM Sport, si vous voulez évidemment aller plus loin. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, au revoir.
Et
au revoir.
Très bientôt.
Merci beaucoup.
Nous, dans quelques instants, on va justement parler de Sergio Ramos et de ses déclarations du jour. Il a été énorme, Sergio Ramos, il dit, tiens, je vous donne un extrait. Bientôt, on va me dire que Firmino était enrhumé après avoir reçu une goutte de ma sueur, dit Sergio Ramos. On en débat dans quelques instants et puis on va aller en Russie.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit, Jérôme Roten, Jonathan McCarthy, Damien Pirenel. Vous avez entendu cette petite promo là sur RMC. Jeudi soir, on a déjà fait France-Brésil 98 il y a quelques semaines, tu t'en souviens Jérôme.
Ouais, ouais.
Jeudi soir, on refait France-Brésil 86.
Génial.
Et on aura avec nous Manuel Amoros qui était titulaire ce jour-là.
Ah, ouais. Le plus grand latéral de l'histoire du football français.
Voilà, qui a été recordman de sélection, fait désormais partie de notre Dream Team.
Le plus grand, abuse pas, tu vas pas lui...
Le meilleur latéral de l'histoire du foot français.
Le plus grand.
Écoute, moi je suis pas loin de penser comme Jonathan. Hein.
Le plus grand.
Ouais. Ah bah ouais, mon gars. Bah,
excuse-moi. Bah,
mais, donner des noms.
Latéral.
Ouais,
mais meilleur qu'Amoros.
Bah, je sais pas, Thuram.
Bah, Lisa.
Non. Amoros, c'est meilleur.
Et Sagnol, il était fort, il était bon.
Amoros, c'est meilleur. Ah, mais sans Amoros, pas tout ça. Amoros, c'est le meilleur.
Parce que je pense qu'à l'époque, c'était tellement désert.
Alors, on peut se cantonner à son côté, alors, éventuellement.
Il a joué des deux.
Ça a été l'idole d'Eric Dimeco.
Il était bon des deux.
Et c'est vrai qu'il jouait des deux côtés, en plus.
Le numéro 1, c'est Amoros, et le numéro 2, c'est Eric.
Le numéro 2, c'est Thuram, pour moi.
Et Taïwo, pas loin. Non,
il est Thuram, on en a eu des bons, quand même. Attends, Jurietti. Il a joué au moins 30 secondes dans l'équipe de France.
Tchirzava,
François Clerc.
Non, mais. J'ai joué avec
Cyril Roll. Numéro 1 Amoureux, numéro 2 Eric Dimeco et numéro 3 Cyril Roll.
Bon, alors, avant de parler de la Russie, les gars, donc ce sera jeudi, hein, jeudi le match en intégralité, prolongation. Bon, on sait comment ça se termine. On sait qui marque le tir en but décisif, mais c'est quand même sympa de revivre tout ça parce que c'était un match avec des rebondissements dans tous les sens.
Et donc on fait l'after sur le débrief du match.
L'after qui arrivera à la fin des tirs au but vers 23h15.
Débrief du match.
Débrief du match pour
évaluation.
Pour avoir ton avis, comme ça, 32 ans plus tard, Jérôme, sur le match de Platini.
Mais tu sais qu'il
a été à la hauteur.
Mais là, tu sais quoi,
Louis,
là ça me plaît plus que ce qu'on avait fait sur
sur France 98.
Ouais, parce que France 98, c'était
c'est plus
et là j'étais vraiment gamin. Moi, c'est un de mes premiers souvenirs.
Ah bah ouais, c'est un match
86, c'est incroyable ce match. Même sans le revoir, je pourrais te dire les actions fortes, c'est incroyable, ça m'a marqué. Mais
souvenir d'enfance, la meilleure VHS que j'ai vue à l'époque, c'était quand même celle qui Mexico 86. Le film,
le documentaire
était vraiment
et la mascotte qui a été fait génial, la mascotte.
Monsieur Dre.
Comment s'appelait la mascotte, toi qui aimes les mascottes?
La mascotte du je me souviens plus de celle-là.
Tu te souviens pas avec
le chapeau
mexicain et avec il avait un petit ballon comme ça, comme ça, était comme ça.
Elle rentre chaud.
Bien la mascotte.
Elle rentre chaud.
Ça serait ta reconversion, mon pote, hein.
Oui, notamment la fameuse scène où ils font l'anniversaire de Tigano, de Platini.
Putain, si
ils sont dans le vestiaire avec les bouteilles d'oxygène et tout.
Si quelqu'un a encore la mascotte, il faut qu'il nous l'envoie. Franchement, moi, je me la mets là pour la Coupe du Monde. Elle était exceptionnelle, ce mascotte. Moi, je l'ai découpé quand j'étais gamin parce que je voulais jouer avec le petit, tu sais, qu'il y a un petit ballon. Ouais. Et vu que ma mère, elle me retirait, je jouais avec des balles de tennis dans le salon, partout, tu vois. Et,
je cassais tout
parce que je mettais des reprises, des trucs. Bon. Donc, elle me cache. Et en fait, j'avais découpé le petit ballon en mousse. De la mascotte. Et en fait, donc je jouais avec quand ils étaient partis, mes parents. Et hop, je leur mettais un truc. Elle croyait, elle savait pas d'où ça venait quand les trucs étaient cassés. Eh, ouais.
Jonathan, donne-moi un mouchoir parce qu'il a eu une enfance difficile quand même.
C'était mon cadeau de Noël, la mascotte. J'avais eu ça. Attends, c'est bien déjà.
Bah ouais.
Bah ouais, attends, moi je me plains pas.
Sergio Ramos, donc conférence de presse aujourd'hui de la sélection espagnole. Il revient sur tout ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions. Et là, il envoie. Donc il dit pour Salah, regardez bien les images, il m'attrape le bras, je tombe ensuite. D'ailleurs, il se blesse sur l'autre bras. Mais les gens disent que c'est moi qui ai fait une prise de judo. Maintenant, le gardien, on dit qu'il a une commotion après un choc avec moi. Bon. Ok,
ce qui est vrai.
Il dit c'en est trop. Il dit j'ai parlé avec Salah par SMS, il allait plutôt bien. S'il avait subi des infiltrations, Salah, il aurait même pu jouer la deuxième mi-temps. Moi, je suis passé par là, c'est pas si grave. Dit Sergio Ramos, qui donc conclut en disant bientôt, on va me dire que Firmino était enrhumé après avoir reçu une goutte de ma sueur. Voilà. Non mais c'est quand même. Moi, je le trouve excellent, Sergio Ramos.
Ah oui, carrément. Et puis en plus, si on analyse techniquement l'action avec Salah, sa clé de bras, elle est toute pourrie, quoi. Je pense que vraiment, il a pas. Si j'espère pour lui qu'il a pas fait exprès, parce que sinon, c'est dégueulasse, quoi.
Non mais après, moi, je pensais pas ce jour-là. C'est vrai qu'on en a beaucoup dit. Daniel s'était chopé avec Fred aussi sur le compte rendu du match. Après, faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est hargneux, qui aime faire mal aux attaquants. Il a voulu faire mal à Salah, pas forcément le blesser de cette façon-là. Mais je pense que dans le duel, il a bien accroché exprès pour le truc. Le coup sur Karius, même s'il fait pas exprès, il laisse traîner l'épaule. Et c'est vrai qu'il y a un contact. Et voilà, c'est les images. Hein.
Pour moi, celle de Karius, il le fait vraiment exprès.
Franchement, il le fait
exprès.
Non, mais celle de Salah, j'ai des doutes.
Si au final, effectivement, il y a eu commotion, parce que commotion, ça entraîne quand même des troubles
exactement.
Temporels.
Ah mais t'es pas bien. Hein.
Vous êtes déjà pris un KO.
Ce qui peut expliquer.
Voilà,
ça explique
c'est
clairement.
C'est comme dans un rêve, en fait.
Ouais, carrément, ouais.
Ça peut expliquer les erreurs, c'est sûr.
Non, mais,
ah, c'est
sûr.
Clair.
Attends, non, mais ça explique les erreurs. Après, c'est vrai que on peut être critique sur lui, sur son attitude. Après, c'est du Ramos tout craché. Mais... Je veux dire,
le genre de joueur. Il est pas dans ton club, tu le détestes, mais il est dans ton club, c'est ton idole.
Mais de toute façon,
il y avait Heinz, c'était le même.
T'as un joueur phare en face qui est au-dessus de tout le monde. Tout le monde disait il est sur la même lignée que Messi et Ronaldo cette année en termes de stats. C'est la vérité. Moi, je les ai faisait commenter Liverpool, qui dans les duels qu'il ait donné cette instruction là, Zidane ou même Ramos en tant que leader d'équipe, dire les gars dans le premier duel faites-lui mal, montrez-lui que aujourd'hui ça va pas être facile. Ah, il arrive dans le duel.
Il y a du monde qui est pas d'accord avec vous sur l'hashtag RMC Live. Nox qui lui dit donc Schumacher sur Baptiste, non, c'est fantastique. Alors ok les gars.
Non, mais moi j'ai pas dit ça.
Moi, j'ai
jamais dit ça.
Et puis Tony Deba qui dit mettre en valeur des tricheurs comme Ramos, ça me donne envie de vomir. Le philosophe a raison. Il y a quand même un bon tas de 1 dans le foot. Hein.
Oui, mais sauf que là, le comportement de Ramos va à l'encontre de la thèse du philosophe. C'est l'expression du comportement humain dans toute la largeur de son panel. C'est le vice, c'est la tricherie.
Après Ramos, il fait ça. On parlait de tout à l'heure de l'Uruguay, Godin.
Mais tu crois que c'est un agneau, Tony Godin ou Anox, le vice fait partie du foot.
Non, mais Godin, voilà. Godin,
le vice, c'est l'essence du foot.
Tu vas, les grands défenseurs.
Montero à l'époque. Ah ouais,
défenseurs, ouais. Déjà, forcément, quand t'es défenseur, on parle moins des défenseurs que des milieux offensifs ou des attaquants qui font des différences, qui marquent des beaux buts, qui font des gestes techniques. Les défenseurs, ils sont là pour contrecarrer les attaques adverses et les attaquants qui sont virevoltants. Donc, il y a des armes que certains mettent en avant. C'est pour ça qu'on les met au-dessus de tous les autres défenseurs. C'est cette agressivité, ce vice, cette grinta, ouais. Dégager ça. Ramos, il l'a. Godin, il l'a.
Parlait de Gabi Heinze, c'était, je crois que c'était
exactement. Quoi, non, mais ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là, tu les retiens. Après, oui, tu t'aimes pas les avoir le contre toi.
Tu sais, ouais. Jérôme, il y a un truc, c'est que en plus d'être bon, celle-là, il dégage une espèce de sympathie. Parce que c'est le nouveau joueur un petit peu qui arrive, qui peut un petit peu sortir les gens de la lassitude de toujours voir Messi, Ronaldo, Ballon d'Or. Donc il y a eu une espèce de cote de sympathie qui s'est dégagée. Et donc forcément le mec qui est au contact avec lui lors de sa blessure, il passe pour un salopard. Mais la vérité, c'est que Sergio Ramos, quand on refermera le livre de sa carrière et qu'on fera le bilan avec un petit peu de recul, eh ben on considérera que c'est probablement le plus grand défenseur de l'histoire du foot.
Est-ce que tu sais comment s'appelait la mascotte de 86?
Elle
s'appelait Piqué.
Piqué.
Exactement.
Comme le joueur.
Exact. Ouais. Mais je te dis, et si quelqu'un nous écoute et il l'a, franchement, faites-moi ce cadeau. Faites-moi ce cadeau.
Tout le black tag, tu peux t'en acheter une sur eBay. Attends,
où tu l'as
trouvé? Sur eBay.
Son nom venait de Picante, les sauces épicées au Mexique.
Ah ben c'est mercantile encore ça.
Voilà.
Piqué.
Elle,
non voilà. Mais donc non pour finir
on
regarde
finit, parce qu'on va en Russie,
la défense italienne qu'on disait la dureté Chiellini, Bonucci, Barzagli.
Oui. Barzagli non moins mais Chiellini, Bonucci. Voilà,
mais excuse-moi mais les trois s'ils peuvent te manger sur
bien
la
sûr.
Tête ils le font hein.
Bien
donc,
sûr. Tout à fait.
Et toi ce qui est sûr par exemple c'est que je vois pas Varane faire ça à Salah.
Bah exactement.
Ah non parce Varane que c'est
fait pas ça.
Non mais c'est pas le même genre de défenseur.
Voilà. Pour faire
le joueur qui joue à côté de Varane devra peut-être le faire, ça c'est sûr, sans aucun doute.
Messieurs, on va accueillir Julien Colling qui est en Russie, journaliste installé sur place, qui suit l'actualité du football russe. Et il y avait un match des Russes aujourd'hui, match amical contre la Turquie, un partout, qui s'est joué à Moscou. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, il y a un petit décalage parce que tu es loin, hein, tu es donc à Moscou. Julien, est-ce qu'à une semaine de la Coupe du Monde, on a l'impression que ça a déjà démarré? Est-ce que c'est un peu la folie dans les villes russes? Il y a des drapeaux partout, déjà des supporters avec les maillots ou alors pas grand-chose?
Bah honnêtement, je veux pas vous décevoir trop, mais pour l'instant, l'engouement n'est pas énorme pour l'instant en Russie sur cette Coupe du Monde. Alors ça commence un peu à se mettre en place tout de même. Je crois que le reporter aussi Antoine Arlot le mentionnait tout à l'heure.
Ouais.
Il y a plus de publicité maintenant dans les rues, il y a plus de panneaux, ça commence un peu à se mettre en place au niveau du merchandising aussi des produits dérivés. On voit des petites poupées russes par exemple à l'effigie du Mondial dans les magasins depuis pas longtemps. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en route et clairement c'est quand même assez loin de ce qu'on a pu voir au Brésil évidemment. Ou en France à l'Euro ou en Afrique du Sud, il y a pas un engouement non plus monstrueux pour ce mondial en Russie. Au-delà de peut-être Saint-Pétersbourg et Moscou, les deux plus grandes villes qui sont des mégapoles. Mmh. Dans les petites villes, c'est un peu plus limité, quoi. Donc il faut peut-être attendre l'arrivée des supporters étrangers qui vont quand même venir en nombre en Russie, c'est prévu, pour un peu mettre la couleur et l'ambiance. Et sachant que par exemple à Moscou aussi, la fan zone principale, la fan fest, n'est même pas encore terminée, quoi. C'est-à-dire que c'est près de l'université de Moscou. Et c'est encore en travaux, donc il n'y a pas encore, c'est pas encore tout à fait prêt. Et voilà, donc, mais je pense que ça a l'air, il y a encore 9 jours à attendre. Ça va monter en puissance, mais voilà, y a, c'est pas encore fou non plus, quoi, à ce niveau-là.
Julien, le match aujourd'hui, là, Russie-Turquie, un partout, quel est le degré de confiance des Russes en vue de la Coupe du Monde? Je parle sportivement, là.
Ouais. Bah, c'est justement assez lié, c'est-à-dire que bon, effectivement, un match nul un partout contre la Turquie, qui est, rappelons-le, une équipe qui n'est pas qualifiée pour le mondial. Mais c'est quand même beaucoup mieux que les trois matchs précédents, parce que la Russie restait sur trois défaites. Donc contre le Brésil 3-0, ils se sont fait écraser et laminer. Contre la France, on s'en souvient, à Saint-Pétersbourg, où il y avait eu quelques bonnes choses, mais quand même une victoire assez large des Français. Et surtout contre l'Autriche, il y a quelques jours, où ils ont perdu 1-0, un match très terne. Donc ce soir, c'était un peu mieux. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le sélectionneur Chichesov après le match. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'animation offensive et plus de combats également voilà, dans ce match. Donc c'est peut-être assez rassurant finalement pour les supporters, sachant que le premier match de la Russie, c'est contre l'Arabie Saoudite en ouverture. C'est leur match largement le plus abordable du premier tour, évidemment. Donc ça peut peut-être aussi lancer les Russes, ce saut qualitatif dans le jeu, pour un bon premier match. Parce que pour eux, évidemment, l'objectif, c'est qui est assez difficile d'ailleurs, c'est de passer le premier tour. Et donc pour ça, il faudra absolument battre en largeur, si possible, l'Arabie Saoudite, quoi. Donc je pense que les supporters russes sont un peu rassurés par le match de ce soir. Et c'était aussi la teneur dans les médias là et au niveau des réactions des joueurs et du sélectionneur.
Pour conclure, Julien, raconte-nous cette histoire des Cosaques qu'on a rappelés pour assurer la sécurité lors du mondial. C'est quoi cette histoire là?
Bah oui, c'est une histoire russe assez qui étonnera pas forcément les gens qui suivent un peu la Russie, qui connaissent la Russie, mais c'est assez fou. C'est-à-dire que les Cosaques, c'est des très anciens gardes, on va dire, à cheval, qui datent du XVIIe siècle, et donc, ils ont toujours continué à exister au fil des siècles. Et quand ils sont en tenue, tout ça, ils sont montés à cheval, et donc c'est un peu folklorique, mais c'est un peu flippant également, dans la mesure où effectivement c'est la ville de Rostov. Donc une des villes hôtes de ce mondial qui a décidé, c'est la mairie qui a décidé de faire appel à des gardes cosaques qui sont un peu un corps indépendant comme ça, rattaché à l'armée, mais qui sont indépendants, pour sécuriser le mondial. Sauf que les cosaques sont un petit peu, on va dire, c'est pas que folklorique, c'est également un petit peu étrange, dans la mesure où il y a un reportage à la télévision russe qui est passé, où les cosaques disaient que s'ils voyaient par exemple des supporters s'embrasser, deux hommes s'embrasser, il le dirait à la police. Donc il faudrait faire attention si les supporters LGBT les écoutent. En tout cas, voilà, ces Cosaques-là, on a fait appel à eux, mais c'est typiquement russe, en fait. Voilà, c'est des trucs assez anciens qui peuvent étonner du premier coup d'œil, mais rien n'est trop étonnant aussi. Voilà.
Merci Julien. La Coupe du Monde, c'est dans un peu plus d'une semaine. Donc voilà, la Russie, bon, ils vont pas gagner. Hein, on va pas se mentir.
Ce sera déjà un exploit de sortir du groupe. Hein.
Oui, puisque attention à l'Égypte.
C'est pas un groupe.
C'est ça, ouais.
Bah, Égypte-Uruguay semble être au-dessus des Russes. Hein.
Est-ce qu'il y aurait pas ils sont avantagés avec le tirage maison aussi, tu vois?
Pardon? Ouais, non, mais
parce qu'on pourrait pas avoir un petit arbitrage maison.
Oui, non,
aussi,
mais certainement. Non, mais attends, c'est possible que.
Ah, la crappe, un remake de la Corée.
Mais bon,
ils ont quand même été ultra faibles contre la France.
Ah, ouais, non, c'est clair.
Ils sont...
Le groupe, non, mais c'est vrai que le groupe, il est pas si facile que ça pour.
Allez, deux, trois infos, les gars. Il y a quelques infos mercato. Vous dire que Jean-Louis Leca va signer à Lens, le gardien de l'AC Ajaccio.
Pourquoi il va pas en Ligue 1? Il n'y a pas un club de Ligue 1 qui.
Bah, écoute, là, il a deux ans plus une année en option pour Leca à Lens. Mercato à Strasbourg. Baoken va signer à Angers, c'est quasiment fait. Voilà. Et puis Strasbourg a recruté Mitrovic, c'est le défenseur central qui devait aller à Saint-Étienne au mercato d'hiver, mais qui n'est pas allé parce qu'il était blessé.
Médical, ouais.
Qui joue à la Gantoise. Et ben du coup, il va à Strasbourg. Voilà.
Bon.
Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi à vous signaler ce soir? Lille maintenue par la DNCG ce soir. Voilà, tout est réglé. Autorisation de recrutement, plus de masse salariale encadrée. Donc, on a apporté toutes les garanties.
Et ben, c'est bien.
Tout va bien. Ça semblait pas si évident que ça au départ.
Non, c'est final, ça. C'était pas gagné.
Très bien tourné là.
Et t'as l'info PSG là? Bah, en Argentine, tout le monde pense que Christian Pavone va signer au PSG.
Ah ouais.
Christian Pavone qui est dans la liste des 23 de Sampaoli, qui est un ailier qui joue à Boca Juniors, qui est vraiment très bon. Mais apparemment, tout le monde dit que...
Pas bon, l'ancien Bordeaux.
Non, pas du tout. Et tout le monde dit que le PSG, c'est très, un stade de discussion très avancé. Je sais pas ce que ça vaut parce que ça vient, enfin voilà, les infos transferts là-bas, en général, des journaux locaux sont pas non plus hyper fiables. Mais s'ils le prennent, ça peut faire un coup à Lo Celso parce que c'est vraiment un très bon joueur.
Mais tant mieux, hein. Écoute.
Lo Celso a fait banquette quoi, un an et demi quand même.
Ah ouais, c'est ça. Pavone fera pareil, ouais. Parce qu'il n'est pas mature physiquement quoi. Mais c'est un bon joueur.
Un bon exemple. Ouais.
Lichtsteiner quitte la Juve pour Arsenal. On l'a appris aujourd'hui. Et puis il y a un autre joueur qui est convoité en France, c'est Gaëtan Laborde, le Bordelais. Nice le veut, Caen le veut, Rennes le veut, Montpellier le veut.
Voilà. C'est un bon
petit joueur.
C'est un bon petit joueur. Il avait joué l'année dernière plus que cette année.
Jamais été très
s'est blessé. Non, mais il a marqué des buts. Il avait fait une saison très correcte à Bordeaux. Même étonné que Gourvennec s'appuie pas sur lui en début d'année. Après, ça s'est mal goupillé, il s'est blessé, et puis bon, Gourvennec est parti, mais sur la fin de saison, il a rejoué.
Deux, trois petites infos encore. Trois matchs de suspension pour Buffon en Coupe d'Europe après l'expulsion contre le Real.
Bah, si Paris, il vient.
Ça peut avoir des conséquences matchs
de
la
sur,
de
poule, sur les matchs de poule. Je pense que Paris n'a pas de souci de ce côté-là.
Et puis attention à l'OM, c'est très chaud entre l'OM et les Yankees, puisque en fait il y a des conventions entre le club et les groupes de supporters, et là l'OM a dénoncé la convention des Yankees. Ça veut dire qu'aujourd'hui ils peuvent pas avoir accès à la campagne d'abonnement, ils peuvent pas vendre d'abonnement, donc ils sont complètement fous furieux. Ouais. Demain il y a une conférence de presse de Michel Todini, donc ça va ça promet un gros bras de fer.
C'est quand même exceptionnel. Vous de faire une conférence de presse avec les chefs des supporters.
Vous l'avez lu demain conférence
vous l'avez
de presse,
vu, non mais vous l'avez lu le communiqué des Yankees
de Michel Todini. Le communiqué.
Franchement, le communiqué où il traite Jacques Henry de bobo parisien qui révèle son vrai visage, c'est n'importe quoi. Ils ont fait une double, faut dire, il y a plein de gens, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Il y a eu une double billetterie qui a été mise en place, notamment pour les places de la finale. Et donc, c'est tout à fait normal. Déjà, les clubs de supporters ont le privilège de pouvoir vendre leur propre, enfin, eux-mêmes leur abonnement. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi.
Tu sors.
Je l'ai fait ça pour toi, c'est pour ça que je te regardais. C'est pour ça que je te
Ça va qu'il y a le quiz qui arrive, donc c'est obligé de rester, mais franchement, c'est pas possible.
Bah justement, le quiz, c'est dans quelques instants, dans l'after, bougez pas.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
On y va, c'est l'heure du quiz. Damien Perrinel, Jérôme Rotten forment une équipe, Jonathan McCarthy forme l'autre. Jonathan, du haut de ses connaissances en philo, normalement a voulu être seul, on verra. Mais bien sûr, il va avoir l'aide soit de Karim, soit de Thomas. Karim est là, salut Karim.
Salut tout le monde.
Salut Karim.
Karim, tu choisis salut. L'équipe McCarthy ou l'équipe Rotten Perrinel?
Toi parisien, moi je me mets à Jérôme.
Très bien. Tu prends les Parisiens, c'est parfait.
Ouais, et puis Thomas est là. Jonathan, il parle trop bien français là pour...
Thomas, t'es avec Jonathan.
Super.
On va voir si c'est un bon choix. J'ai un cadeau très sympa pour vous. C'est une BD, je la montre. Rêve sur le toit du monde, l'histoire de l'équipe de foot du Tibet. Et oui, il y a une équipe de foot au Tibet. Aux éditions Desronds dans l'eau. On vous l'offre ce soir si vous gagnez le quiz. Attention.
Avec le livre de Robert.
Quiz russe.
Waouh.
Russe.
Oui, quiz russe. Faut vous y mettre, les mecs. Attention, si je vous dis un seul but en 31 matchs de Ligue 1.
C'est Max.
C'est Jeff.
Sergueï Semak. Rotten.
J'ai joué, c'est de la triche, j'ai joué avec lui.
Ah, mais n'empêche qu'il a, il se rappelle de la stat.
Ouais. Et il a joué avec moi, tu vois.
1-0, Sergueï Semak. Quel joueur, quand il est arrivé en Ligue 1, a été surnommé, assez brièvement, je dois le dire, le Michael Owen russe?
Sitchev.
C'est moi. C'est Jonathan le plus rapide. Sitchev.
Il connaît que Sitchev, il nous l'a puni à toutes les sauces, là, déjà. Deux fois, c'est bon. Et tu l'as dit une fois, il reviendra pas. Sitchev.
Ils ont fait ça deux matchs.
Ah ouais. Un partout. C'est vrai qu'après, ça s'est vite arrivé.
Ouais, c'était.
Pour reconnaître que bon.
Elle a fait quelques bonnes entrées.
Mais sans déconner.
Attention, je suis un des derniers Russes à avoir joué en France. J'ai été élu meilleur joueur russe. Smertin.
Bien joué, Damien.
Smertin, ça fait 2-1 pour l'équipe Perrinel, Rotten, Karim.
Ah, là, c'est dur pour toi.
Hein. Non, ça va.
Attention. Quel joueur champion d'Europe russe est passé par l'OM?
Oh, putain, je l'ai.
Quel joueur, quoi? Champion d'Europe?
Quel joueur champion d'Europe russe est passé par l'OM? Champion d'Europe avec l'OM, il était dans le groupe. Ah oui. Prénom Igor.
Merde.
Igor.
Igor D. Voilà. Un seul match cette année-là contre le CSK Moscou.
Allez, honnêtement, je sais pas.
Igor D.
Aucune idée.
Igor Dobrovolski, voyons.
Ah, Dobrovolski.
Okay. Eh oui, tout le monde le connaît en plus, Dobrovolski. Ouais.
Bon. Ah non, Jonathan, non, apparemment, parce que vu la grimace. Wow. Tu connais pas Igor Dobrovolski?
Attention.
Ça m'a échappé.
Moi aussi, j'ai joué en France. Je suis un joueur russe, superbe tireur de coup franc, ayant joué à Caen.
Mostovoy.
Ouais. Mostovoy, Jérôme.
Oh, la tête est
Strasbourg aussi, non?
Bravo.
Ça fait 3.
Je te l'offre, Karim, la BD.
Bon, allez, on serait. Il est où mon auditeur là?
Attention.
Il sert à rien pour l'instant, Coco.
Je suis pas russe,
Une petite enchère.
Ah, j'aime bien les enchères.
Combien de joueurs russes ayant joué ce soir contre la Turquie, êtes-vous capable de me citer? Ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Je vous laisse vous concerter de toutes secondes. Thomas, Karim, si vous avez des idées, vous pouvez les...
J'en ai au moins un, mais...
Alors, on me dit... Alors, voilà, on a le temps. Tiens, vous démarrez, vous les rotaines, puisque vous menez. 3. Jonathan, est-ce que tu dis mieux que 3?
Je leur laisse.
Ok.
Non, je leur laisse.
3. S'ils n'en citent pas 3, les 2 points sont pour l'équipe Jonathan.
Hakim Feyyef.
Hakim Feyyef, c'est bon, ça fait 1.
J'espère qu'il a joué, l'autre, là. Smolov.
Smolov, c'est... Smolov? Smolov, c'est bon, ça fait 2.
Golovin.
Golovin.
Golovin, c'est bon, ça fait 3.
Mais 3, c'est facile, 3 quand même.
Je pensais que j'étais à 6. Il
y avait quand même Dzagoev qu'on connaît un
petit peu. Dzagoev.
Ignacevic.
Denisov, non?
Non, Denisov, non. Denisov n'a pas joué.
Popov.
Voilà. Attention, 5-1.
Poutine.
Poudlof. Vous pouvez... Non, c'est Kouglof.
Kouglof. Kouglof.
N'importe quoi.
Énervé, l'autre.
Jonatov. Attention. Tu peux encore te refaire.
Jonatov.
Quelques questions en rafale. On en est à 5-1. Lors du match Russie-France, joué le 25 mars 1998 à Moscou, match amical, gagné par les Russes 1-0. Qui était le gardien de l'équipe de France?
Letizy.
Letizy, bien joué.
Ah bah oui, il a pu rejouer après.
Ah ouais, c'est le dernier, c'est le
jubilé, son jubilé. Ouais.
Jubilé, ouais. Letizy en équipe de France.
Wow.
Attention.
Combien ça fait là?
Ça fait 6-1.
Oh là. Ah bah ça, c'est quelque chose ce score. C'est bien.
Ah bah,
attention, lors de ce même match, on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Hein. Lors de ce même match, j'aimerais que vous me citiez au moins l'un des deux attaquants titulaires.
Nicolas Wedek.
Non.
Non, en France ou
Anelka.
En France.
Dugarry.
Non. Guivarch.
Guivarch, c'est bon. Il y avait Guivarch et Diomède. Les deux attaquants, c'était Guivarch, Diomède. 6-2.
Oui, oui.
Diomède, comment il pouvait jouer devant? Il a toujours joué à gauche.
Eh ben, écoute, c'est comme ça. Ce jour-là, ils ont joué comme ça.
Ouais.
Ah oui, non, mais.
Mon avis, non.
Connexion excellente.
Attention, je continue. Nous sommes maintenant le 29 mars 2016, match amical, la France bat la Russie 4-2. Je répète, la France bat la Russie 4-2. J'aimerais que vous me trouviez le dernier buteur de cette rencontre, il est français.
Pogba.
Griezmann.
Giroud. Non, Coman, Lemar.
Coman. Qui m'a dit Coman?
C'est moi, Karim.
Karim.
Bien joué, Karim.
7-2. Pouf. Là, c'est mon petit Jonathan.
Ce soir. 7-2, mais
ce soir.
Les Russes, j'ai une tête de Russe, moi.
7-2.
Du Nord.
Ah oui, c'est vrai.
Je clôt le quiz. Tu t'es pris une telle branlée. 7-2.
Désolé, Thomas.
Tu étais meilleur en philosophie.
Victoire éclatante de Karim. On va t'envoyer la BD, Karim.
Merci.
T'as passé ton été dernier en Russie.
Je te le signe, le livre. Je te le signe, la BD.
T'as passé un mois en Russie l'année dernière. C'est normal. Les établissements de nuit s'en rappellent encore.
Mais je ne réponds pas aux attaques.
Très bien, t'as raison.
Gratuit.
Tiens, j'ai le temps de vous donner le résultat de notre grand concours de l'Instagrammeur RMC Sport. Vous savez qu'on a lancé ça pour trouver un Instagrammeur pendant la Coupe du Monde qui va être avec nous là dans la rédaction tous les jours. Et bien, figurez-vous que c'est une Instagrammeuse qui a gagné. Elle s'appelle Naomi, c'est la grande gagnante de notre concours Job de rêve. Et donc elle passera la Coupe du Monde avec nous et pour nous faire vivre la Coupe du Monde d'RMC sur Instagram.
Je vais me remercier Naomi, c'est moi qui ai fait le casting.
On verra du Jérôme Bretel sur Instagram évidemment assez régulièrement. Voilà.
Ah bah oui,
c'est une bonne chose.
Je pense que c'est une bonne chose.
C'est une très
bonne,
bonne
chose pour Instagram, mais aussi pour Jérôme Bretel.
Et surtout pour l'after.
Et pour l'after, par ailleurs.
Et surtout pour BFM Sport.
Demain soir, nous sommes de retour.
De temps en temps sur RMC Sport, du moins SFR.
Demain soir, nous sommes de retour dans l'after, Jérôme.
Et merci Robert.
Tu seras là. Damien, à bientôt. Reviens quand tu veux. Tu sais que t'es chez toi.
Plaisir.
Donne-nous des nouvelles pour ton futur club, évidemment.
Ouais, j'espère que s'il y a quelque chose, ce sera annoncé dans les brèves.
Ah mais ce sera
dans les brèves. Ce sera aller dans les brèves de la première.
Je veux dire que ce sera autrement mis en valeur que Jean-Louis Leca. Jonathan, merci.
Jean-Louis Leca.
Il est très sympa en plus.
Merci à toi, Gilbert.
Et merci à Jonathan. À 22h, bien sûr.
T'as besoin.
Bonne nuit à tous et à demain soir.
RMC, le super football show, l'After Foot.